Bienvenue sur le Slow Method Podcast.
Aujourd'hui, je vous propose le deuxième podcast avec Marc Vouillot. Deuxième interview spécifiquement sur la programmation en haltérophilie. C'est un podcast un petit peu spécifique sur le domaine. Donc si ça ne vous intéresse pas, ce n'est peut-être pas un très bon podcast pour vous. On parle donc programmation globale, donc mésocycle, microcycle, le travail sur une semaine, le travail sur une journée, le travail sur une séance d'entraînement, comment mêler tout ça et comment l'intégrer sur une période entre deux compétitions. Voilà, ce podcast suit 2 heures d'entraînement, donc vous pouvez aller écouter les éléments qui ont été retirés des 2 heures d'entraînement sur l'épisode 10 qui s'appelle Pépites d'entraînement avec Marc Vouillot. Vous n'êtes pas obligé d'aller écouter l'épisode 10 pour écouter celui-ci. C'est un podcast qui s'écoute très bien tout seul. Il dure environ 45 minutes et il n'y a que de bonnes choses à en retirer. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute.
Donc classissement, comme je te l'ai dit, hein, 3 découpes, PPG, PPC, PC. D'accord ? Ouais. Préparation physique générale, d'accord ? Qui monte jusqu'à... 70-75%, ça peut être variable, enfin, c'est en général dans ces eaux-là. Où tu ajoutes un volume de travail relativement conséquent sur les points faibles, bien évidemment, de la personne. Où il y a un travail de musculation, orientation haltérophile, bien évidemment, comme ouais. Les tirages lourds, comme des développés, comme tout un tas de choses comme ça. Après, tu as la période pré-compétitive qui se rapproche déjà au niveau de l'intensité de la période compétitive, où là, on monte sur au-delà de 80%, 85%, 90%, voire du 92,5%, 95%. Et la période compétitive où là on est quasiment sur les barres, sur les 100%.
Sur les périodes 2 et 3 là,
ouais.
Pré-compétitive
et compétitive.
Semaine et...
Alors c'est variable, ça peut être 4 semaines, 4-5 semaines sur la période pré-compétitive, mais ça ouais. C'est en fonction des dates précises. Ouais. Et sur la période compétitive, ben, ça dépend du nombre de compétitions que tu as dans la foulée.
Ah, oui,
c'est-à-dire que tu as des haltérophiles des fois qui tirent sur plusieurs semaines d'affilée.
Oui. D'accord,
c'est-à-dire plusieurs week-ends.
Événement, c'est...
Voilà. Donc, en fonction de ça, si tu veux, la semaine qui suit est une semaine de réajustement technique éventuellement, ouais, mais clairement. Pas un truc où on bourrine. Ouais. On réajuste certaines petites choses qui ont pu faire défaut la veille, tu vois, ouais. Et là, on est sur une période compétitive.
Ça marche.
Donc après, ça peut être sous forme de test. Hein, s'il n'y a pas de compétition, ce sont des tests. Hein. Alors, vas-y, si tu as des questions...
On va partir sur ça. Parce mm-hmm. que ce qui m'intéresse, c'est... Donc déjà, par exemple, sur les 6 semaines, mm-hmm. est-ce que c'est une ligne droite? Enfin, est-ce que c'est un... On monte, par exemple, partons sur 4 entraînements dans la semaine.
Alors, pars comme en force, tu pars sur un objectif préalablement déterminé, ouais. qui est connu ou qui est illusoire parce que tu n'as pas encore toutes les données liées à ton maxi.
Ouais.
Maintenant, si tu as une connaissance déjà de ton maxi, c'est un plus par rapport à ton maxi.
Ouais.
Je dis n'importe quoi, tu es à 60 à l'arraché, c'est peut-être un plus à 65, on tente 65. Donc toute la déclinaison des pourcentages va se faire par rapport à ces 65, bien évidemment.
Ça marche.
Alors donc, vas-y. Donc c'est effectivement une montée progressive en charge, un ajustement technique énorme, parce que c'est là qu'il faut travailler techniquement, c'est-à-dire tous les défauts, tous les problèmes, on essaie de les régler lors de cette période-là. Ça peut encore se faire lors de la période pré-compétitive, mais on est déjà sur des barres. Qui nécessite quand même que les défauts soient quand même
déjà
occultés de façon assez importante,
ouais.
parce que sinon c'est l'échec programmé, hein, donc ça va très très vite. Donc c'est surtout la période PPG qui est une période propice à ce genre de choses, où là on reprend l'athlète, on prend tous les défauts de la tête, on décline tout ça, on note, et à partir de là on choisit tous les semi-techniques qui peuvent être en rapport avec la problématique, ouais. et comment on utilise ces semi-techniques pour augmenter sa capacité de coordination, augmenter son tirage de bras si tu vois qu'il y a un manque de tirage de bras, augmenter sa faculté à descendre plus vite sous la charge parce qu'il y a une hésitation,
ouais.
on sent que ça ne descend pas vraiment parce qu'on a un petit peu peur des charges.
Ouais, voilà. Normal, ouais.
Donc en fonction de ça, tu as des exercices bien évidemment semi-techniques qui sont adaptés. Hein.
Alors, donc, disons que ça fait 6 semaines, cette période-là.
Ouais.
On part sur 3 ou 4 entraînements dans la semaine, c'est le même principe à peu près que la force.
Tu peux, voilà, l'haltéro, tu peux aller jusqu'à 5 entraînements semaine.
Ok.
Après, il faut que ces entraînements soient bien programmés,
ouais.
voilà, qu'il y ait une logique dans ce que tu mets en place. C'est-à-dire que c'est pas 5 entraînements où je travaille lourd.
Ouais.
Il y a, on jongle et on fait un travail ondulatoire. Donc ça peut être le lundi sur un travail. Alors on peut dissocier, en général chez les gens qui débutent, on a tendance à dissocier l'arraché de l'épaule jetée
ouais.
pour qu'il y ait une charge de travail qui ne soit pas trop importante.
Ouais.
Parce que c'est beaucoup d'informations, ouais. beaucoup de problèmes. Beaucoup... Psychologiquement, l'haltéro, ça pose des problèmes.
C'est du golf, comme je disais
voilà,
tout à l'heure.
Voilà, exactement. Tu es sans arrêt en train de cogiter, le tirage de ceci, le placement de cela. Le... c'est souvent, au bout d'un moment, tu as plus la tête qui
lâche. Le tibia, presque, les voilà, genoux, c'est ça.
C'est presque l'aspect psychique, si tu veux, qui au bout d'un moment ne tient plus, même si le physique en prend un coup, mais le psychisme en prend un coup également. Donc, quand ce sont des personnes, quand ce sont des personnes vraiment débutantes, en général, on dissocie l'arraché de l'épaule jetée. Ouais. Il y a une séance où ça va être orientation arrachée, une séance orientation épaule jetée.
Pour reposer
avec
le...
les semi-techniques qui vont avec, voilà. De façon à ce que la personne emmagasine déjà des données, mais okay, que ça ne se, s'embrouille pas dans la tête, quoi, c'est, sinon ça devient du grand n'importe quoi.
Du coup, ça fait lundi disons arraché, orientation arraché, parce que je suppose que c'est des orientations,
voilà.
C'est pas que...
Ça peut être orientation le lundi, ça peut être de l'arraché, le mercredi, si en admettant qu'on fasse trois fois par semaine, c'est un débutant, le mercredi il va faire de l'épaulé, le vendredi ça peut être du jeté, on peut dissocier.
Ouais, le bras, voilà, les jambes,
on peut dissocier le jeté de l'épaulé. L'associer après, quand on voit que ça fonctionne bien, on peut les associer. Toi, tu le déclines comme tu veux en fait, t'en fais ce que tu veux, la programmation tu l'éclates comme tu veux, en fonction de la personne et de ses capacités à pouvoir s'approprier la gestuelle haltérophile.
Ouais.
T'as des mômes qui vont débuter qui d'un seul coup sont haltéro quasiment, voilà.
Et bah c'est bon,
voilà, tu
c'est
dis,
fait.
Bon, bah, là,
il... bah tu fais ça, voilà. Voilà.
Alors tu regardes, tu dis bon, il y a des petites choses, mais c'est vraiment du colmatage, c'est vraiment que dalle quoi. Et t'en as d'autres, tu sens qu'il va y avoir du travail, que c'est difficile, en termes de coordination ça pose problème et que bon, là on va bosser quoi. Donc en fonction de ça, tu agences un petit peu les choses. Après, quand on rentre dans des gens qui sont intermédiaires ou qui sont déjà des compétiteurs, qui sont déjà d'un niveau supérieur, en général on fait les deux, on peut cumuler les deux sur la même séance, c'est-à-dire on fait de l'arraché, ça peut durer 45 minutes, 1 heure, et on va faire de l'épaule jetée, ça peut durer 45 minutes, 1 heure, plus les exercices annexes, c'est-à-dire qu'une séance d'haltéro elle peut monter à plus de 3 heures.
Hein. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord, ça marche. Parce que
avec des temps de récupération, bien évidemment, c'est pas 3 heures où tu es sous la barre.
Ouais, bien sûr.
Mais ça peut avoir une durée globale de 3 heures avec les exercices annexes, avec le squat clavicule que tu vas faire, avec d'autres éducatifs que tu peux mettre, okay. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quand même relativement copieux.
Okay.
Donc ça suppose que quand tu as des séances, quand tu as une séance intense arrachée, l'épaule jetée est technique.
Dans la même séance, c'est
voilà.
Ça ouais, okay,
tu
ouais.
Vois ce que je veux dire.
Ouais, ouais.
C'est pas les deux où tu bourrines. Après, quand tu viens le mardi, ça peut être un ajustement uniquement technique, d'accord, sur les problèmes, sur les points faibles.
Ouais.
Le mercredi, tu reviens, ça peut être l'épaule jetée qui démarre et c'est lui qui est le point fort.
Ouais.
Où là, on fait une gamme montante sur des barres et c'est l'arraché qui devient le travail technique derrière avec des charges.
Là, on est toujours en PPG ou pas dans l'idée de...
Même dans les, même quand on est dans la préparation compétitive, mais... c'est comme ça.
D'accord.
Hein. T'essaies de le mettre
boom.
Comme ça,
d'accord.
De façon à avoir ça une charge de travail trop importante. Par contre, quand tu es dans la période compétitive, tu essaies de cumuler les deux et à haut niveau.
Ouais.
Parce que tu vas te retrouver dans ce cas de figure.
Ouais,
tu vas
d'accord.
te retrouver à faire lourd l'arraché
ouais.
et lourd l'épaule jetée ensuite.
Ouais.
Donc on met l'athlète face à cette réalité. Et donc sur les séances, il va avoir épaule jetée, arraché, épaule jetée, relativement lourd. Alors tu peux les dissocier quand même, c'est-à-dire moins lourd sur l'épaule jetée comme l'est l'arraché. Et inversement le vendredi où on va faire l'un.
Ouais, pour pouvoir justement aller chercher des barres un petit peu plus difficiles. Sur chacun des soulevés sans se mettre la pression
exactement.
Sur les deux à
exactement.
Chaque fois.
Mais systématiquement, il cumule quand même deux actions motrices relativement lourdes dans sa séance de façon à s'habituer à ce qu'il va subir pendant la compétition.
Mais la charge nerveuse est quand même moins importante qu'en force athlétique.
C'est exact. Du fait du travail en puissance, c'est-à-dire que comme c'est terriblement technique, on peut considérer qu'un haltérophile, son ATP, puisqu'on fonctionne avec de l'ATP, hein, tu connais le système, on peut considérer que sur un gars en force athlétique, son ATP, il la grille sur un squat lourd, il grille quasiment toute sa quantité d'ATP et c'est pour ça qu'il a besoin de 5 minutes.
Ouais.
Après, il y a l'aspect psychologique. On sait qu'en 3 minutes, tu as reconstitué ton stock d'ATP, mais ça, c'est l'ivresque.
Ouais,
tu vois,
ouais,
voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Après, le mec, il a besoin psychologiquement de prendre un petit peu plus de temps parce que ce qu'il vient de vivre, ça l'a totalement fissuré. Toi. En haltéro, on peut considérer que sur un arraché ou sur un épaulé jeté, un peu plus l'épaulé jeté, l'haltérophile va griller en gros 80-85% de son ATP.
Ah oui, d'accord. Mais c'est quand même, donc ça demande quand même
c'est
3
beaucoup,
minutes de.
C'est beaucoup.
Ouais.
Mais moins qu'un grand force va être proche des 100%.
Ouais, ouais, ouais.
Lui, il va y laisser son ATP. Lui, il va être obligé. D'où les récupérations qui sont nettement plus longues en force qu'elles ne le sont en haltéro. D'ailleurs, en haltéro, quand les gars font de la compétition,
parfois ils ont une minute.
Si tu te succèdes à toi-même, parce qu'il n'y a pas de gars en intermédiaire qui font des barres du même type que les tiennes, c'est-à-dire que tu peux faire tes trois arrachés de suite, parce qu'il n'y a aucun gars qui est à ton niveau, les mecs qui sont plus lourds que toi. Donc si tu fais, je dis n'importe quoi, 60 au premier essai, tu fais 62-500 au deuxième et 65 au troisième, tu vas passer dans la foulée. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, tu as juste une minute de récupération et tu repars.
C'est pour ça qu'en compétition, parfois, il recorrige le gars derrière, il recorrige.
Exactement, il peut revenir dans la salle d'échauffement, refaire un travail correctif.
Merci.
C'est pour la bonne cause, Et il faut un petit réajustement parce qu'ils ont vu que hop, le tirage est pas bon, donc ils repartent sur une barre lourde, mais pas aussi lourde que celle qui vient d'heure. Mais pour avoir gardé quand même les sensations dessus, il retravaille un peu son geste technique pour voir s'il peut le réactualiser. Pour pouvoir après essayer de le refaire, parce que là, il y a une grosse erreur. Ouais. Mais donc c'est pour ça que souvent, en haltéro, quand tu es sur la période pré-compétitive, tu commences à diminuer les temps de récupération d'un passage à l'autre.
Au cas où,
on est plus d'une minute trente, deux minutes, une minute trente, et progressivement, on s'approche de la minute. Tu vois.
Et c'est aussi l'intérêt de... Parce que j'imagine que la préparation physique générale permet de mieux récupérer entre ces barres aussi.
Bien sûr.
Et je sais pas si psychologiquement, il y a un travail à faire là-dessus aussi, entre deux barres, si peut-être... Bon, allez, c'est parti, en 10 minutes, départ toutes les minutes, un arraché à, je sais pas, 80 pour travailler...
Tu peux, par exemple, quand tu es sur la période compétitive, par exemple, le gars, ça va être pratiquement sa barre de compète, où on est à 95% ou 97,5% ou presque 100% de sa charge, et on va lui faire faire 5 fois 1.
Ouais.
Toutes les minutes.
À ce poids-là ?
Voilà.
Ah oui, d'accord, comme ça il est prêt.
Parce qu'il faut qu'il enregistre, cette charge-là.
Ouais.
C'est la charge à faire. Il n'y a qu'un haltérophile, quand il fait son maxi en compétition, en fait, c'est pas réellement son maxi.
Il l'a déjà fait.
Voilà.
Il l'a déjà fait.
Ce qui n'est pas le cas en force athlétique.
Ouais,
il pas
qu'on, on la garde
en réserve parce qu'on sait ce que ça suppose un maxi et qu'on sait que là ça va être terrible et qu'on va y laisser des plumes. Alors qu'en haltérophile, comme c'est un geste éminemment technique, l'erreur en fait, c'est-à-dire que tu loupes ta barre, c'est pas parce que t'as pas la puissance de feu, c'est parce que t'as fait une erreur technique.
C'est intéressant. Quelque part, il y a moins un aspect. Alléluia! Quand il y a un record du monde en powerlifting. On a l'impression que tout le monde crie, c'est un truc de fou.
Oui, c'est ça.
Alors qu'un haltéro, c'est bravo.
Quand tu vois un arraché, ça dure entre 3 et 4 secondes. Tu vois ce que je veux dire, t'as à peine le temps de te poser que le mec, il a déjà monté sa barre. C'est pas un truc qui dure. Alors qu'un squat, t'as le temps de donner de la voix parce que le gars, il peut monter en 30 secondes son squat. T'as le temps d'y aller. Tu gueules, t'entends le public qui crie. Altéro, les gars applaudissent une fois que la barre est montée, tu vois, parce que ça va tellement vite que l'épaule éjetée, ça dure un petit peu plus longtemps parce que tu as sa phase intermédiaire où tu mets un épaulé clavicule et après tu as le jeté, donc ça va durer 5-6 secondes, tu vois, 7 secondes si le gars prend un peu de temps en haut, tu vois, mais c'est très rapide,
c'est
très rapide, alors qu'en force, c'est rare que ton squat dure 5 secondes ou 7 secondes, tu vois, quand c'est un squat max. Parce que là, tu as cette notion de puissance. C'est-à-dire que l'haltérophile ne peut pas se dissocier de la notion de puissance, la notion de vitesse. S'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'haltérophile. C'est foutu, quoi. Donc, c'est cette vitesse qu'il faut absolument, et cette puissance qu'il faut absolument performer, et essayer d'améliorer autant que faire se peut. Et c'est ce qui dissocie, effectivement, le monde haltérophile de la force. Les deux entraînements ne peuvent pas s'associer. C'est complètement différent comme type d'entraînement.
Je vais dériver là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas une idée un jour de compétition de... ils appellent ça le super total. C'est-à-dire arracher,
arracher, épaulé, jeté, squat, bench,
deadlift.
Ça pourrait se faire. Alors le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un terrain d'entente entre les deux fédérations, ce qui n'est pas le cas, parce que chacun voulant tirer la couverture à lui... Donc les haltérophiles étant effectivement l'activité dominante dans la mesure où ils sont olympiques, et ça ils ne veulent pas en démordre, donc ils sont olympiques, donc c'est une institution, et que toi tu es juste une pièce rapportée, tu es de la force, mais ce sont des sous-mouvements, quoi. C'est une sous-discipline. Quoi.
Mais il y avait il me semblait qu'il y avait eu une idée d'enlever l'haltérophilie des Jeux Olympiques.
Oui, sur les problèmes de dopage notamment.
Parce qu'il y a eu des problèmes de dopage, donc ils se disaient qu'ils allaient...
Aux derniers Jeux Olympiques, il y a eu, 15 ou 20 gars qui se sont fait choper pour doping, tu vois. Donc ça fait beaucoup, quoi, pour une fédération internationale, quoi. C'est beaucoup sur des Jeux Olympiques, quoi.
Et du coup, ils auraient...
Donc, ils ont été proches de se faire éjecter, comme la Fédération internationale est une grosse fédération qui a quand même du poids au niveau du CIO, ils ont réussi à rattraper le coup, mais ils sont quand même sur la sellette. Ils sont, la porte est légèrement entrouverte.
C'est pour ça qu'ils ont viré toute l'équipe russe ou chez...
non, oui, c'est ça.
C'était en partie
et une année,
pour,
ça a été l'équipe...
Kazakhstan ou en tout cas
Kazakhstan ou... qui a été pris, et puis l'équipe turque. L'équipe turque. Où le seul qui n'ait pas été pris, c'est le lourd, le poids lourd.
Ouais.
Toute l'équipe turque a été positive. Toute l'équipe turque.
Ouais.
Des petits poids jusqu'au mi-lourd. Et il n'y a que le super lourd qui s'en est sorti, qui n'a pas été contrôlé positif.
Parce que ça s'est dilué dans son organisme, ouais, ils avaient tous la même dose
vois, donc,
à la chaîne.
Et alors ce truc-là, si tu veux, qui est, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête... ils savent que là-dessus...
Donc,
ils essaient d'être un peu plus rigoureux sur les contrôles, mais... Alors ils se cachent derrière le truc en disant oui mais nous au moins les gars sont 30, c'est que ça veut dire qu'il y a des contrôles. Oui, mais il y en a beaucoup trop qui sont 30, quoi, c'est ça le problème, c'est que il n'y a plus de crédibilité.
Ouais.
Où est la crédibilité?
C'est
là,
comme le cyclisme.
Oui voilà c'est ça.
On
en arrive à un truc qui est proche du délire, quoi. Et tu finis par. Et, même si le public est toujours là, parce que ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel à regarder. Mais les gens savent, à la limite les gens savent que les mecs sont shootés, mais on sait que c'est comme ça. On sait qu'à la limite pour faire du cyclisme sur route à ce niveau-là,
t'es obligé
d'y passer. Quoi. Et donc on fait abstraction de ça, bon, on vient regarder un truc, c'est quand même spectaculaire. Mmh. Les gars sont quand même très forts, monde d'école qui sont quasiment comme ça, on se demande même en bagnole, toi tu cales, tu peux pas monter, tu vois. Eux montent, bon pourquoi pas. Et en haltérophilie, tu vois effectivement des charges tout à fait exceptionnelles, mais bon, est-ce que c'est. La crédibilité de l'activité sportive en prend un coup, mais...
Et il y avait le reportage Icarus, je ne sais pas si tu avais regardé ça, et donc le type se dopait comme un russe, justement, et ses performances avaient baissé. Enfin, il avait été moins bien classé. Alors, sur la deuxième, quand il avait été dopé, et moi j'avais trouvé ça fascinant, parce que je me suis dit, ah bon, là, ça fait pas...
Parce que ça a été mal géré.
Ah oui.
Ça a été mal géré. Actuellement, dans le milieu sportif actuellement, quelle que soit l'activité, hein, mais notamment dans la force, dans l'haltérophilie, les gars sont... C'est quasiment indécelable.
Ouais, d'accord.
Okay. Les gars passent au travers. Si t'es d'un bon niveau et t'as un bon prof à côté de toi, t'as un bon toubib, t'es intouchable.
C'est parce qu'ils savent tous les
contrôles. Ils connaissent tout. Et les produits qu'ils font maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont shootés en permanence. Les gars sont shootés en permanence, c'est-à-dire du début de l'année à la fin de l'année.
Ils font un cycle, ils cyclent juste les choses différemment,
mais ils shootent de façon régulière, mais de façon moins importante qu'ils ne le faisaient avant. Mais par contre, on continue.
Tout le
c'est
temps.
Pour ça qu'il n'y a jamais de baisse de régime. Tu t'aperçois que les gars ne sont jamais, n'ont jamais de creux, n'ont jamais de problèmes, n'ont jamais de...
Ouais.
Les gars font des compétitions, ils font 4 compétitions d'affilée, les 4 compétitions d'affilée, ils sont au top.
Ouais.
C'est ça. Et les Russes, les équipes russes, les pays de l'Est avaient mis au point tout un truc, c'est-à-dire que comme ils ont des gars qui sont très très pointus et qui se tiennent, les 5 meilleurs Russes se tiennent à 2,5 kg, 5 kg.
Ouais.
Le mec qui est 5e, il est quasiment aussi bon que le premier à 5 kg près. Donc il y en a un qui fait les championnats d'Europe.
Ah oui, donc bon, toi
lui,
tu fais
après, il se repose.
Tu veux quoi cette année?
L'autre, il fait les championnats du monde.
Ouais.
Il se repose. L'autre va faire les Jeux Olympiques. Ce qui fait qu'à chaque fois, quand le mec se repose, en fait, il est sur sa cure. Il repart sur une cure, il repart sur un truc. Donc
c'est la jachère, russe.
C'est terrible.
Pardon, on a dérivé un petit peu.
Oui.
Sur le, donc on est encore sur la préparation physique générale. Donc le travail d'arraché, c'est un peu ce qu'on a fait là. C'est-à-dire qu'on est monté et on monte les poids. Et en fait, au fur et à mesure qu'on monte les poids, on fait un exercice différent avec le poids qui a monté. Globalement, c'est ça. Et ensuite, on arrive au geste final.
C'est ça.
Qu'on fait sur.
Alors,
c'est généralement
contre,
ça le.
Par contre, sur la préparation physique générale, les répétitions tournent toujours autour de 5.
Ouais,
on reste sur du 5.
On fait un travail foncier.
Quand tu es sur la préparation physique pré-compétitive, enfin, quand tu es la préparation pré-compétitive, là, tu commences à être sur du 3, 2, tu commences à t'approcher de la vérité. Et quand tu es sur la période compétitive, c'est du 3, 2, 1. Quoi.
Ouais, d'accord. On tente des
proches. On est sur des barmax. Quoi. On est sur des barmax.
Et c'est pareil.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu les enregistres psychologiquement et physiquement. Quoi. C'est-à-dire que la barre ne te pose pas de problème, il n'y a pas de barrière psychologique. Ouais.
Du coup, là, sur les, disons, 3 séances, on va prendre 3 séances par semaine sur la préparation physique générale. Donc, arraché, travail un peu qu'on a. En gros, la séance qu'on a fait là, c'est ça.
Ça serait presque une préparation physique générale.
Voilà, hop, clac, clac, et ensuite quelques exercices de ah tiens, j'ai vu que.
Alors les exercices que tu mets en place, c'est pour ça que je t'ai fait faire du tirage, parce que tu m'as dit effectivement, tu as un petit souci au niveau des tirages de bras. Donc les. Dans la préparation physique générale, l'idée des exercices annexes que tu mets en place, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les semi-techniques sont des exercices qui doivent être intelligemment choisis en fonction de la problématique posée par l'athlète, bien évidemment, pour essayer de résoudre le problème technique qui se pose, qui peut être simplement un problème de coordination, ou je ne monte pas les épaules, ou je n'ai pas de traction de bras, ou il y a quelque chose qui ne va pas, ou je ne chute pas suffisamment sous la barre. Donc, tu as une liste d'exercices semi-techniques qui peuvent résoudre ces problèmes-là, que tu mets en place, qui seront pour toi différents de l'autre athlète qui, lui, a d'autres, d'autres problèmes.
Problématiques et pour le faire progresser.
C'est ça.
Et ça, c'est des exercices d'assistance. Donc, en gros, l'exercice d'assistance devient...
C'est ce qu'ils appellent les semi-techniques.
Semi-techniques, quoi. D'accord. Semi-techniques. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de musculation, bodybuilding, travail...
En haltéro, non.
Non, c'est plutôt rare.
Le travail qu'on pourrait considérer comme de la musculation en haltéro, c'est les développés, on a fait tout à l'heure.
D'accord.
Développés clavicules, les tirages lourds.
Ouais.
C'est ça.
Ok, d'accord. Donc en fait, ça reste.
Altéro, il touche pas au travail musculaire.
Ok, intéressant.
Il pense, alors c'est une erreur, pour moi c'est une erreur. Il pense que l'altéro se suffit à elle-même. Or, moi je pense que non. Et j'en ai pour exemple un garçon qui est d'origine camerounaise, là, qui a fait les championnats, qui a fait les Jeux Olympiques et qui s'est blessé très gravement à l'épaule, au niveau de la coiffe des rotateurs. Parce que ça n'a jamais été travaillé de façon suffisamment profonde et suffisamment importante. Et on a pensé que il suffisait de faire de l'arraché et que tout allait bien.
Ouais.
Or, moi, je serais d'avis de mettre en place, pour des jeunes notamment, des mouvements de pullover qui peuvent être intéressants, de mouvements d'expansion thoracique, qui peuvent aider aussi au redressement du dos, qui peuvent compenser certaines mauvaises attitudes, qui peuvent... Le travail de rotation externe, rotation interne au niveau de la coiffe des rotateurs, sur les pelvitro-cantériens au niveau des hanches aussi, il y a plein de trucs. Mais si tu veux, dans l'haltérophilie, ça n'est pas entré dans l'haltérophilie, parce que pour eux, leur activité se suffit. Donc ils ne conçoivent pas qu'on puisse mettre d'autres exercices annexes. L'haltéro, c'est la panacée.
Mais on dirait la conversation qu'on avait tout à l'heure sur la boxe, c'est comme ça et ça marche.
Alors,
comme ça.
L'avantage, si tu veux, c'est qu'effectivement l'haltéro, de par la difficulté des exercices et de par la, je dirais la généralité des exercices qui fait que ça travaille de façon effectivement importante et globale, est assez intéressante et peut, sur certains athlètes, suffire, dans la mesure où il n'y a pas de problème particulier sur le plan musculaire, mais certains athlètes ont des problématiques de déficit de force sur certaines régions musculaires, notamment des muscles profonds qui sont stabilisateurs au niveau articulaire, qui ne sont pas suffisamment costauds pour tenir les articulations, et à faire de l'arraché, finalement l'épaule, évidemment, elle part. Lui, c'est ce qui s'est passé, c'est que son épaule n'a pas tenu, elle est partie, et sur une barre très lourde, et il s'est tout déchiré.
Parce que ça, pour moi, c'est une attitude... on va espérer qu'un athlète symétrique, parfait, musculairement, et tous ses membres sont à la même taille, musculairement c'est bon, il est équilibré de base et puis on fait le travail. Mais c'est pas intéressant.
Ça n'est pas ça.
Ça n'existe pas.
Ou alors c'est des cas extrêmes.
Mais
c'est
effectivement
un athlète comme ça. C'est un athlète comme ça qui arrive et il est exceptionnel.
Achille ou Hercule qui venait, faisant un athlète, basta.
Dans la plupart des cas, je dirais 80% des cas que tu vas avoir. Ce sont des cas où il y a un problème qui va se poser, qui va se manifester. Donc c'est à toi de trouver des solutions qui peuvent être dans les exercices d'haltéro, mais que tu peux peut-être modifier d'une certaine façon pour essayer de leur donner une certaine tonalité en fonction de la problématique. Ils ne font pas. Ils sont psychorigines dans leur truc, c'est comme ça le mouvement. On ne doit pas le dévoyer, le mouvement, tu vois ce que je veux dire. Le mouvement, il est fait comme ça.
Et c'est ça qui les
emmerde. Et c'est pour ça qu'ils ont une cohabitation difficile avec les gens du CrossFit, parce qu'ils utilisent l'haltéro d'une façon moins rigoureuse que ne le font les haltérophiles, et parce que c'est leur activité qui veut ça.
Leur problème, c'est qu'un jour, moi je pense que ça va arriver dans, je sais pas, 5 ans, il y a un crossfitter qui va aller aux Jeux Olympiques en tant que Français.
Actuellement, au niveau national,
c'est un crossfitter.
T'as des crossfitters qui sont sur les podiums nationaux.
Et là, les haltérophiles, ah,
les haltéros, ils en peuvent plus. Ils font la gueule. Ah ouais. En filles, ils ont récupéré 3-4 crossfiteuses à qui ils ont fait faire de l'haltéro. Ils leur ont filé un bon d'or en leur disant
Parce que
les filles, elles avaient simplement fait du crossfit. Ouais. Elles étaient meilleures en haltéro que les nanas qui étaient là.
Et parce que justement, si
parce qu'un travail plus général, vrai, parce que des compensations sur des régions qui ne sont jamais travaillées par les haltérophiles, toi, et que d'un seul coup, ces nanas, elles étaient physiquement beaucoup plus costaud parce qu'elle faisait des tractions, elle faisait
des muscle-up sur là l'épaule. Exactement. Si elle n'est pas solide,
tu pètes, elle est morte, tu tiens pas.
Et du coup, le transfert sur l'haltérophilie doit être super intéressant.
Exactement. Exactement.
Se poser la question sur
parce que c'est pour ça, si tu veux, qu'actuellement, et ça les a mis, parce qu'au début, quand il y a eu une crossfit, ils ont rejeté systématiquement en bloc.
Regardez-les, ces amateurs.
Et quand les nanas se sont pointées parce qu'elles ont pris leur licence, en se disant, elles font quoi les nanas en haltéro, elles font ça.
Ah, c'est les mêmes scores que moi, ça.
On peut le faire, nous aussi.
Ouais.
Et il y a des filles qui ont été championnes de France, et qui n'étaient pas haltérophiles. Ouais. Donc ils se sont dit, putain, c'est quoi l'affaire? On est pris pour des cons, là, toi.
Bah oui, complètement.
Parce que le mec, il arrive, c'est pas sa discipline, il arrive, il est champion de France.
Quoi. Mais après, il y a peut-être tout simplement une histoire statistique de volume. C'est-à-dire que le crossfitter en France, je ne sais pas combien il y en a quoi, 4
non,
ans.
Non, il n'y en a pas des.
Il n'y en a pas des masses.
Pas énormément.
Il y en a sûrement plus énormément. Que des haltérophiles, j'imagine.
Bien sûr.
Et du coup, si dans ce volume-là, il y a forcément un ou deux phénomènes. Parce que là, on a.
Et chez les hommes, alors, à un degré moins chez les hommes, parce qu'il y a quand même un bon niveau haltérophile en France, mais il y a quelques gars qui se sont glissés quand même sur des podiums, qui ont fini par faire deuxième, troisième.
C'est bon déjà.
Alors que le gars. Qu'est-ce que tu fais de l'haltérophilie? Je fais du crossfit. Alors effectivement, dans le crossfit, j'ai de l'haltérophilie, mais pas telle qu'elle est conçue en haltérophilie. Nous, on fait de la répétition, donc ce qui prouve que en travaillant comme je travaille, finalement, j'arrive quasiment à faire tes barres. Il faut se poser des questions.
Est-ce que la méthode est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? Donc la question sur la PPG, c'est justement ça. Moi, je préfère ta vie.
Et c'est pour ça, si tu veux, que moi. Mais c'est pour ça que, si tu veux, que je me suis mis en porte-à-faux avec tout ça et que j'ai claqué la porte avec tout le monde.
D'accord.
Parce que moi, j'étais dans la fédé haltéro, j'étais dans la fédé de force. Mais systématiquement, ça s'est mal terminé parce que je la ramenais, parce que j'estimais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites. Toi. Et j'étais donc l'empêcheur de tourner en rond. Il disait non, mais ça fonctionne bien comme
on
ça.
On aime bien notre petit
groupe. On est dans notre petit truc, on a notre petit groupe de.
On aime bien notre maracage.
Il faut surtout pas ouvrir remettre en question les choses. Ça fait un siècle que c'est né l'haltéro, on va pas remettre en question. Justement. C'est pas parce que pendant un siècle ça a fonctionné comme ça que d'un seul coup il faut pas y avoir d'autres idées, tu vois. Il y a un moment, il faut avoir des idées novatrices, toi. Tu te dis, puis c'est même pas des idées novatrices, c'est-à-dire concevoir qu'un gars qui a une déficience, tu puisses lui faire faire d'autres exercices que des exercices haltéro, mais ça me semble tellement logique.
Sacrilège,
mais c'est le sacrilège, voilà, c'est ça. C'est ça.
De toute façon, dès que ça commence à devenir comme ça, comme je disais pour la boxe.
Non, mais c'est fini, il n'y a même plus d'échange possible.
Ouais.
Parce que les gens restent figés sur leur position. Et il n'y a même plus d'échange. Mmh. Nous, on s'insultait simplement autour de la table, toi. Donc, au bout d'un moment, tu te lèves, tu t'en vas, parce que ça n'a aucun intérêt.
Ouais, c'est fini. Enfin,
c'est aucun intérêt, puis tu perds ton temps, toi, parce que tu sais que de toute façon, les choses n'avanceront pas, n'iront pas dans ton sens, parce qu'ils sont bloqués complètement. Mmh. Et que c'est un non-sens pendant 2 heures de se t'envoyer des trucs à la tronche qui mènent nulle part. Mmh. Parce que tu sais que de toute façon, les choses ne changeront pas.
Et là, de toute façon, elles vont devoir changer parce que si les résultats sont là, que des gens qui touchent à l'haltérophilie s'en vont faire même professionnellement, parce que ce n'est pas des professionnels, hein, c'est amateurs, crossfit, et puis les autres qui sont semi-pro, j'imagine.
Alors, ça a remis en question, effectivement, enfin, ça a remis en question toute la problématique, si tu veux, c'est que ces gens-là ne se remettent pas en question, même s'ils sont confrontés à une réalité, c'est-à-dire que la réalité d'un monde extérieur qui vient se frotter à eux. Et qui finalement leur fait des misères. Toi.
Bah oui.
Donc,
faut peut-être
ouvrir la porte. Là, c'est ce que je leur avais dit, mais 15 ans, 20 ans avant, j'aurais dit, moi, il n'y avait pas le crossfit à l'époque, mais j'aurais dit, il faut s'ouvrir à d'autres choses. Il y a de la musculation à mettre en place. Il y a un travail de renforcement à mettre en place. J'irais même qu'il y a un travail de prise de masse musculaire qui peut se mettre en place par certaines personnes dans certains cas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ah oui, non, mais ça, on laisse ça aux culturistes, la masse musculaire. Non.
Ah non, elle est là, de toute manière, même si on fait
elle est, juste, elle, mais elle est partout. Elle est partout. Elle est chez le sprinter, elle est chez le coureur de fond à un degré moindre, parce que prendre 1 ou 2 kilos de masse musculaire, ça peut l'aider à améliorer effectivement sa foulée, à améliorer certaines choses. Toi. Donc on en est là, toi, mais c'est... Et on n'en sort pas parce que c'est des trucs typiquement français, quoi, où on ne veut pas avancer. C'est la différence avec les anglo-saxons. Les anglo-saxons ont un diagnostic, tu vois, posent le problème, il y a un diagnostic, Bon, bah, ok, on peut essayer, pourquoi pas.
Après, je sais pas les Anglais, parce que j'ai pas regardé si les Anglais, parce que les Américains, je sais que bah, ils touchent un peu à tout, parce que j'imagine que c'est culturel. Oui.
Aux États-Unis actuellement, l'haltérophilie avait complètement disparu en haltérophilie, enfin, aux États-Unis. Il y avait de l'haltérophilie, bien sûr, mais à haut niveau, ça n'existait plus.
J'ai jamais vu un Américain.
Ça n'existait plus. Voilà. Le seul, c'était Mitchell, le dernier, c'était Mitchell au jeu panaméricain, mais qui s'était fait choper pour doping. Ouais. Mais ça remonte à quasiment 30 ou 40 ans, ça. Pierre Mitchell, qui était un super haltéro. Et l'haltérophilie n'a fait que décliner toutes ces années aux États-Unis. Et actuellement, il y a un renouveau de l'haltérophilie. À cause de quoi ?
Grâce au CrossFit. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est un petit peu le. Parce que je crois que la boxe déclinait aussi après Mike Tyson. Il y a eu un on s'en fout. Et grâce au MMA.
C'est ça.
Mine de rien, c'est le même. C'est exactement parallèle. Hein. Les deux sont parallèles.
C'est ça.
Et ça a ouvert des portes à.
D'autres activités, parce que tu as des gars qui sont venus du MMA. Ils se sont dit, on a besoin de faire de l'anglaise, donc ils se sont mis en anglaise. Finalement, on a trouvé que les gars n'étaient pas si mauvais que ça. Ils ont commencé à faire des combats, et puis ils ont foutu en l'air des mecs qui étaient des pros en anglaise.
Ouais, et malheureusement, en fait,
voilà, donc il y a un moment où il faut essayer de s'ouvrir un petit peu aux autres activités et ne pas essayer d'être dans la rigidité totale.
Mais j'imagine que pour un pays comme les États-Unis qui a quoi, 400 ans 3 ans 400 ans 300 ans
c'est l'avantage en fait des États-Unis. Ouais. Les États-Unis, alors ils n'ont pas d'histoire. Ouais. Ce qu'on peut leur reprocher, mais c'est comme ça.
C'est un avantage, un inconvénient.
Mais c'est un avantage aussi pour eux. Ouais. Parce qu'ils n'en regardent jamais derrière. Ouais. Ils regardent toujours devant. Mmh. Alors que nous, on est toujours en train de regarder derrière. Nous, on vit sur notre histoire, on vit sur notre passé. Ouais. Qui est très bien. Moi, je ne remets pas en question ce truc-là. L'histoire, faut essayer. Mais il faut jongler sur les deux. On a un passé, ok. Ouais. Mais il ne faut pas que ce soit ce passé qui te bouffe l'avenir. C'est ce que je veux dire. Tu te sers de ton passé et tu essaies de voir comment tu peux effectivement. Alors eux, n'ayant pas ce truc-là, ils sont tranquilles là.
Alors, à mon avis, c'est pour ça que. Parce que là, j'ai l'impression que les États-Unis, ça tombe un peu. Enfin, c'est l'impression que j'ai.
Oui, alors pas dans tous les domaines.
Ouais.
Pas dans tous les domaines.
Que
ça, c'est ce qui ressort un petit peu sur un plan économique, sur le plan mondial. Ouais. J'ai l'impression que les États-Unis sont maintenant un peu à la traîne et que c'est la Chine qui a tendance à maintenant montrer le bout de son nez et montrer que c'est eux qui. Vraisemblablement, ça sera peut-être la nation phare dans les années qui viennent et que les États-Unis auront du mal à suivre, c'est fort possible. Mais dans certains domaines, les États-Unis restent quand même en leadership, c'est évident.
Bah, là, ils sont encore en train de tirer sur le mélange, parce que les États-Unis, c'est un mélange.
C'est ça, c'est ça.
Et c'est beau parce que c'est des migrants qui arrivent, ils deviennent américains.
Bien sûr.
C'est tadam mais ils amènent leur histoire avec eux.
C'est ça.
Donc, cette idée de justement avoir un socle sur lequel on se repose.
C'est ça.
Mais en même temps, d'avancer et d'essayer de trouver des solutions. Produire nouvelles choses.
Alors au début, ça fait des clashs parce que tu as l'Américain pur et dur qui ne voit pas ça d'un très bon oeil. Et puis tu as l'immigré qui arrive, qui lui ne comprend pas bien pourquoi on raisonne comme ça. Et puis quand tu arrives à malaxer tout ça et que tu arrives à en sortir un jus à peu près correct, ça finit par faire quelque chose de tout à fait intéressant.
C'est ça. Intéressant. Peut-être que les États-Unis en sont à ce moment-là où justement ils deviennent un pays qui commence à avoir un peu d'histoire.
C'est ça.
Et ça, et boum, ils veulent se fermer. Alors que justement, ce qui a fait leur force,
c'est de s'ouvrir.
Ce passage.
Bien sûr.
Moi, j'aime bien cette idée de comme un lac. Si on arrête, si on coupe les deux extrémités, ça devient marécage.
Bien sûr. Il n'y a plus d'oxygène.
Il faut qu'il y ait du passage.
Il y a plus d'oxygène, exactement. C'est l'oxygène de l'humanité, ça.
Ouais.
Et puis la confrontation des cultures, même si c'est un choc par moment,
Et
c'est comme ça, quoi.
Ouais.
C'est comme ça. Putain, c'est incroyable, tu vis. Et ta vie, c'est ça.
Ouais, tu manges quoi?
Oui, c'est curieux, quoi. Mais justement, faut apprendre à connaître l'autre, à se dire. Ouais. Mais l'avantage, si tu veux, de notamment des États-Unis, enfin, les Anglo-Saxons, les Australiens sont pareils parce que ils ont à peu près la même histoire. Alors, sur des choses dramatiques aussi, c'est-à-dire que leur histoire commence par un génocide indien d'un côté, et l'autre, elle commence par un génocide aussi sur les aborigènes.
Ah, ils ont phagocyté.
C'est à peu près la même chose.
Ouais.
Bon, dramatique, mais bon, c'est comme ça que ça s'est construit, malheureusement. Mais si tu veux, cette jeunesse qu'ils ont. Et ce peu d'histoire, quand ils se retournent, qu'ils ont, leur permet, tu vois, moi je fais toujours j'ai toujours cette idée-là, c'est-à-dire que si tu vas voir un Américain avec une idée novatrice, le mec il t'écoute, Et il te dit, bon, on peut essayer.
Mmh. Ouais.
Le français, il t'écoute et il dit, non, non, ça,
on
fait,
ça, on l'a pas fait, ça.
Ça fait un siècle qu'on fonctionne comme ça. Donc, imagine un peu le passé qu'on a.
Ouais.
Non, non, on ne peut pas changer les choses comme ça.
Ouais.
Et là, c'est terrible.
C'est dommage.
C'est terrible. Et c'est pour ça que si tu veux que toutes les personnes qui sont censées être des personnes intéressantes, les intellectuels ou les scientifiques, partent souvent à l'étranger.
Parce qu'on leur...
Parce qu'on les bloque à un moment, parce que le gars est plein d'idées, et bah non.
Ouais,
non, non, t'auras pas de subvention, t'auras que là, non, ça nous intéresse pas vraiment.
Puis là, j'ai un ami qui est parti en... Il est parti en Allemagne.
Il y a beaucoup de Français qui sont partis en Angleterre ces dernières années, et beaucoup de scientifiques français, beaucoup d'hommes, dans plein de domaines.
Ouais, mon pote, là, celui qui était fort, qui faisait son arraché, lui, il est parti en neurophysiologie en Allemagne. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vols en machin pour voir les effets de la, sur la neurophysio. C'est la porte à côté. Hein.
Il
de payer 5000 euros par mois à faire de la recherche.
Et il est considéré.
Ouais.
Alors qu'ici, t'es une tâche ici.
Ah,
le mec, il te regarde.
T'as fait 12 ans d'études.
Non,
tu sors, avancé le monde.
Non, c'est un peu trop novateur pour nous. C'est révolutionnaire, votre truc, là.
C'est ça. On est un pays de vacances maintenant, c'est affreux. Ouais.
C'est un peu dommage. Et si tu veux, on subit un peu tout ça, et même dans les activités de sport.
Ouais.
Et l'haltéro en est un exemple. C'est que l'haltérophilie, parce que l'haltérophilie, c'est français et allemand.
Ouais.
C'est vraiment les deux nations qui ont vraiment mis en place ces trucs-là. Parce que souvent, les gens maintenant avec le crossfit pensent que l'haltérophilie vient des États-Unis.
Ouais.
Les États-Unis, ils ont phagocyté tout ça, ils ont tout récupéré.
Bah,
quoi. Les États-Unis, c'est Hermann Görner, qui est un Allemand, qui leur a appris le squat. Hein,
ouais.
Parce qu'on a appelé squat par la suite, mais lui, la flexion sur les jambes, c'est lui qui l'a mis en place. Toi. Et il a même tourné avec le cirque Barnum pour faire des démonstrations de force. Donc, alors qu'eux, n'avaient pas inventé le squat.
Ouais.
Donc après, quand tu renvoies tout ça en disant « ouais, c'est nous qui avons... » Non,
c'était l'époque où les Français étaient novateurs. Parce que j'imagine que les Français, c'était un peu... Enfin, la Gaule, à l'époque, c'était plein de petits pays, quoi.
Oui, c'est ça.
C'était un espèce d'États-Unis bis, enfin, pré-États-Unis.
Oui, et puis il y avait une ébullition, il y avait quelque chose.
Ça va de française, tout ces trucs-là.
Oui, voilà, c'est ça. Il y avait plein de choses, basées sur des trucs un peu traditionnels français, mais qui étaient très intéressants.
C'est dommage. Pardon.
Désolé.
Il y a 8 minutes là, tranquille. Qu'est-ce que j'allais dire? On a fait donc préparation physique. Donc ce qui m'intéresse, c'est sur une séance en gros. Donc ça, c'est l'idée. Mais toi, qu'est-ce que tu rajouterais par exemple en préparation physique générale? Est-ce que tu ferais moins de gestuels techniques? Et tu rajouterais des correctifs en musculation?
Alors moi, en fonction de la problématique de la personne, moi je rajouterais effectivement du travail de musculation ciblé, mais qui ne soit pas à l'encontre de l'activité haltérophile, bien évidemment.
Ouais.
Il ne s'agit pas de mettre du muscle pour mettre du muscle, c'est du renforcement.
Ouais.
Et renforcer les articulations pour que ce que tu subis, les contraintes que tu vas subir en haltérophilie, tu puisses les subir sans problème. Et ce qui n'est pas toujours le cas, parce que si tu fais tes premières saisons d'haltérophilie et qu'au bout d'une année d'haltérophile, tout ce que tu as, c'est mal aux genoux, mal au dos, mal aux épaules, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé de totalement négatif. Donc moi, je serais plutôt sur cette ouverture-là. Mais tout en gardant un travail technique, c'est le travail technique qui prime.
Ouais.
Voilà. Donc, et le reste, c'est du rajout.
Et tu le ferais en deux séances séparées, tu penses, ou tu le greffes?
Alors, tu peux greffer des choses qui soient... c'est-à-dire
dans le prolongement.
Voilà, je grefferai du travail musculaire lié à de la musculation, plus en relation avec le geste haltérophile.
Ouais.
Retrouver toi une gestuelle qui soit proche de l'haltérophilie.
Donc.
Par contre, la musculation de renforcement sur certaines autres types pullover, par exemple, là je pourrais le mettre sur une séance annexe.
D'accord.
Où ça serait une séance essentiellement consacrée à la problématique de la personne.
Okay.
S'il y a une mauvaise attitude, s'il y a un manque de souplesse sur une région. Parce que le manque de souplesse, souvent, c'est pas obligatoirement un problème articulaire.
Ouais.
C'est parfois un problème musculaire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un muscle qui est hyper tonique et de l'autre côté un muscle qui ne l'est pas du tout.
Ouais.
Et ça crée un déséquilibre articulaire qui fait que tu te retrouves dans des positions pas...
Donc ce serait, disons, sur un débutant, donc trois séances par semaine, une séance arrachée, une séance épaule jetée et puis une séance muscu.
Voilà.
En gros, c'est parfait. Un système un peu comme
pour quelqu'un qui débute, c'est largement suffisant.
T'apprends
largement
sur
suffisant.
Une journée arrachée, sur une journée
technique,
épaule-jetée.
technique, parce que c'est la base. Hein. Il faut vraiment que ça devienne quelque chose d'automatisé. Hein. C'est ça la technique. C'est vraiment le côté primordial de l'haltérophilie. Ça l'est dans d'autres domaines sportifs, mais en haltérophilie, c'est vraiment quelque chose. Tu ne peux pas aller contre. Une mauvaise technique en haltérophilie, c'est qui est dans l'incapacité motrice de pouvoir faire un geste correct et surtout d'optimiser des performances. Donc c'est ça la priorité. Et après, bien évidemment, venir greffer autour tout un tas d'exercices multiples et variés, hein, en fonction de la problématique de la personne. Est-ce que c'est un manque de souplesse? Est-ce que c'est un manque de force sur certaines régions? Est-ce que c'est un manque de gainage? Parce qu'on parle de gainage souvent au niveau abdominal et au niveau dorsal, mais le manque de gainage, ça peut être le genou. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une instabilité au niveau de ton genou qui est liée, voilà, qui est liée à des insuffisances musculaires. Que tu peux
corriger en musculation.
Exactement.
Du coup, sur la phase intermédiaire, c'est le même principe. 1, 2, 3, ça resterait les mêmes choses, mais c'est des pourcentages et des exercices qui changent.
Les pourcentages montent, par contre, tu diminues. On peut considérer un temps que l'athlète, quand il est sur une préparation physique, préparation très compétitive, il vit déjà sur des acquis.
Ouais.
Donc, à moins qu'il y ait encore une grosse problématique, il joue sur ses points faibles.
Ouais.
Mais tu as quand même diminué ce volume. Le travail des exercices annexes semi-techniques diminue aussi au profit d'un travail plus axé sur le mouvement global de façon plus intense. Parce qu'on s'approche de la vérité et on essaie d'arriver véritablement à la performance. Donc il faut que le volume de travail diminue. Par contre, on augmente effectivement les pourcentages. Donc le qualitatif augmente sur le quantitatif.
Et toujours travail correctif, un peu en musculation à côté.
Travail correctif, s'il doit y être. Le travail correctif est indispensable.
Et ensuite, sur la période de la dernière, compétitive.
Compétitive.
Pareil.
Alors, période compétitive, tu as tout réduit. Il n'y a plus d'exercice annexe.
D'accord.
On laisse. Il n'y a plus de semi-technique.
C'est une semaine ou deux, c'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est ça sur 2 à 3 semaines. Et là, c'est période où tu es uniquement sur les barres. Et après, la dernière semaine avant la compétition, tu as une diminution des pourcentages. On est sur une phase d'affûtage. Mais j'essaierai de t'avoir tout ça là pour essayer de te les envoyer. Phase d'affûtage où tu vas travailler sur du 70%, 80% à tout casser pour arriver tout doucement à ta compétition où là, tu vas exploser.
Et parce que dans tout ça, du coup, moi, j'entends pas squat, j'entends pas soulevé de terre.
Soulevé de terre, non. C'est-à-dire,
ouais.
Alors, toute la problématique, c'est que l'haltérophile ne veut pas entendre soulevé de terre. C'est du tirage lourd.
Tirage lourd, bon.
Voilà. Soulevé de terre, si tu dis soulevé de terre, déjà, t'es pas haltérophile.
Et ça, du coup, parce que j'imagine qu'il doit y avoir, comme au tout début, tu me disais, il faut faire un travail.
Bien sûr.
Le tirage lourd et
alors,
machin.
Dans la période. Dans la période de préparation générale, il peut y avoir ce type de travail qui est moins lourd qu'il ne va l'être par la suite.
D'accord.
Les tirages lourds, tu vas les garder. Dans la période pré-compétitive, tu peux garder les tirages lourds.
Ouais.
Tu peux travailler, tu gardes le squat lourd,
ouais.
Les squats clavicules notamment. Par contre, squat nuque, tu l'abandonnes. Et tous les autres exercices semi-techniques, à moins qu'il y ait encore une problématique gestuelle, auquel cas tu gardes un ou deux semi-techniques, mais vraiment bien ciblés sur la problématique du gars. Et quand tu arrives sur la période compétitive, il n'y a plus que les exercices techniques, uniquement le travail technique.
Et sur une séance, donc on commence technique, c'est ça ?
Oui.
On commence technique, et par exemple le tirage lourd, il arrive il arrive à la fin, c'est ça du coup ?
Oui, tu peux le mettre à la fin. Alors si tu décides que le tirage lourd, c'est l'arraché, tu le mets à la fin de l'arraché, et après tu mets ton épaule léché, un ton en dessous plus léger, où tu vas travailler technique essentiellement, il n'y aura pas de travail lourd. Et après, tu l'inverseras sur l'autre, c'est-à-dire que le tirage lourd, tu le feras sur l'épaulé et l'arraché sera technique. Tu vois, tu vas jongler en permanence comme ça.
D'accord, arraché.
Alors après, ce qu'il faut, c'est en termes de volume de travail, arriver à trouver le volume juste.
Ouais.
Tu vois, c'est ça toujours. Parce qu'on est toujours dans l'idée de se dire, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que, tu vois, on est toujours sur ce truc-là, tu vois, parce que comme tu entends plein de sons de cloche, moi, je sais que la plupart des haltérophiles français, pour moi, sont surentraînés.
D'accord. Des séances trop longues et trop lourdes et trop de volume et trop tout en même temps.
Surentraînés. Et c'est pour ça que souvent, lors des compétitions, ce sont des gars qui ne font pas les performances souhaitées.
Ouais.
Ils sont loin des performances.
Parce que leur.
Et tu t'aperçois que les performances, en fait, ils les ont faites pendant leur préparation.
Ouais.
Et que le jour J, ils sont à 5 kg, 10 kg de leur perte.
C'est drôle parce que ça, c'est la. C'est ce qui m'avait intéressé avec le Simmons, là, sur Westside. C'est qu'il disait, les gars, le soulever, il faut le faire le jour de la compète. Il ne faut pas le faire la semaine d'avant.
Évident.
Généralement, ils font ça.
Évident.
Ils disaient que la programmation comme ça.
Tu sois sur de la haute intensité à un moment, c'est normal, puisqu'il faut que tu t'appropries un peu ces charges, et psychologiquement et physiquement.
Ouais.
Mais il y a un moment, c'est la période où tu reviens sur la restructuration de ton système nerveux, restructuration sur le plan hormonal, pour être au top le jour J. Ouais, parce qu'il faut que ça se traduise par quelque chose. Tu es parti sur un objectif. Le but du jeu, c'est qu'en partant du point A pour aller au point B, au moment où tu arrives au point B, tu réalises tes objectifs préalablement fixés. Si tu es à 10 kg, 15 kg, 20 kg de tes objectifs, c'est qu'il y a eu quelque chose en cours de route qui n'a pas fonctionné.
Ah, vraiment. Et puis si tu rates tous tes trucs.
Et ça, c'est toi, par exemple, les derniers les Jeux Olympiques, c'était les Jeux Olympiques de Londres, c'était lesquels où les haltérophiles ont fait la bulle.
Ah oui, Londres.
Les trois haltérophiles qui se présentent, ils font bulle. Non, mais c'est hors de question. Non, mais c'est hors de question.
Il n'y a pas de remise en question.
4 ans de préparation, le mec, pour faire une bulle aux Jeux Olympiques. C'est incroyable, le staff, mais c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais c'est un constat de taré, ça. Ouais. C'est que vous êtes très mauvais, les gars. Très mauvais.
Ça fait peur, ouais.
Ça fait peur. Il y a trois athlètes, les trois font bulle. T'imagines ? Qu'est-ce que c'est ? Et c'est pas de la faute des athlètes, c'est que les athlètes étaient laminés.
Ah ouais.
Ils n'en pouvaient plus, les gars. Et en plus, ils les font démarrer sur quasiment leur bar max dès le premier essai. Pour essayer de rester au contact des Chinois. Donc c'est... Non, mais les Chinois, ils leur ont mis plein la gueule.
Ouais.
En plus, ils ont fait bulle, donc c'était bon. Mais c'était pas ça le but. Ouais. Tu viens pour faire ta compétition. Déjà, passe le premier mouvement. Après, on verra où tu en es. Et puis, on verra ce qu'il faut ajuster. Voilà, valide au moins quelque chose.
Parce que si tout le monde rate, au moins, tu auras validé ta barre.
Aux Jeux Olympiques, tu fais ça peut-être une fois dans ta vie. Tu fais bulle, ça n'a aucun intérêt. Non, mais tu vois, on en est là. Quoi. Et c'est. Je me bats, moi, depuis des années et des années sur ces trucs-là, en leur disant, mais c'est incohérent ce que vous faites, totalement incohérent. Totalement incohérent.
Je ne sais pas comment on peut amener ça, je ne connais rien, moi, la politique
de la fédération. Tu ne peux pas l'amener dans la mesure où, si tu veux, tous les gens du staff sont mis en place, c'est les hautes instances, c'est le président de la fédération, après tu as la DTN, hein, donc tu as le directeur technique national, après tu as les CTR, les conseillers techniques régionaux, donc ça se décline comme ça, après tu as des entraîneurs nationaux, tu as avant, hein. Bon. Mais tu avais les conseillers techniques départementaux, je ne sais plus si ça existe toujours, enfin ils ne servaient à rien, enfin bon, c'est comme ça, c'était pour eux, bon, il y avait des mecs qui avaient du boulot, quoi. Mais ça ne servait pas d'enjeu. Mais tu t'aperçois qu'avec tout ça, alors c'est donc le président qui donne les grandes lignes, comme dans toute fédération, les grandes lignes de la fédération, c'est-à-dire on travaille dans ce sens et on va faire ça,
ouais.
Ok. La DTN, lui, doit tout mettre en place sur un plan technique et doit mettre en poste tous les mecs pour que ça puisse fonctionner, en donnant la bonne parole. Tu sais, c'est le fameux truc pyramidal contre lequel je me bats depuis des années parce que ça me fait rigoler, c'est-à-dire tout part d'en haut et ça doit arriver à la base.
Alors qu'en haut, ils les soulèvent pas.
Alors en haut, ils te font que des conneries, donc la base, quand tu vois que les trucs, quand tu vois la somme de travail qu'ils donnent à des jeunes dans certaines salles d'altéro, parce que là-haut, on a dit que c'était comme ça qu'il fallait s'entraîner, et les mômes, ils sont en train de les massacrer. Les mômes, ils rentrent chez eux, ils sont laminés, ils n'ont même plus envie de manger, ils veulent aller dormir. Et après, on s'étonne, mais on n'a pas d'haltérophile. Ah bah non, tu peux pas en faire comme ça, c'est pas possible.
Ah, là.
C'est pas possible. Non. Et c'est pour ça que je te dis que les gars qui viennent du crossfit, qui passent donc par quelque chose de totalement différent, finalement arrivent à être compétitifs en haltéro. Pose des questions.
Ouais, ouais.
Mais attends, enfin, pose tes valises.
Il faudrait se poser
des questions. Voilà, en tant que DTN et conseiller technique ou entraîneur national, putain, je me remets en question. Ouais. Je me dis, mon gars, il vient de s'en prendre plein la gueule. Je l'entraîne, il s'en prend plein la gueule par un mec qui fait de l'haltéro depuis un an. Là, tu vois. Faut se poser des bonnes questions. Là.
Oh non, mais c'est juste qu'il est meilleur, etc. Il va falloir qu'on se bouge, je suis désolé.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, partagez-le ou alors allez me mettre une petite review sympa, histoire que je sache un petit peu ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Prochain podcast à venir, restez connectés cette semaine. Avant samedi, je vous proposerai le podcast avec Arpad Alas, coach sportif à Paris, spécialisé dans le travail gymnastique, le yoga et le street workout. Vous pouvez aller voir un petit peu son contenu sur www.arscorpus.com, arscorpus.com. Si vous voulez vous renseigner un petit peu avant le podcast, on parle d'énormément de choses en relation avec le corps, la méditation. On traverse pas mal d'éléments que je trouve très intéressants. Et j'ai hâte de vous présenter ce prochain podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.